Les ondes de l'égalité. À l'occasion des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole du 16 février au 8 mars, Radio Ondaine vous invite à écouter des reportages, interviews, conférences, émissions spéciales dans son programme Les ondes de l'égalité.
Rendez-vous réservé aux professionnels durant les semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole. La journée de formation, cette année, a eu lieu le jeudi 5 mars dans les locaux de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Décrypter le masculinisme, les clés pour agir. Voici le titre de cette journée, organisée entre autres par le CIDFF 42, l'ANEF Loire, SOS Racisme 42, Zoomacom et de nombreuses autres associations du territoire présentes pour animer une série d'ateliers afin d'appréhender le masculinisme avec une base commune pour mieux comprendre ce mouvement inquiétant. Pourquoi s'emparer de ce sujet? Comment en parler? Comment en détecter les signes? Et que faire? Autant de thèmes abordés dans cette journée présentée par Mélila Baca, directrice du CIDFF 42, au nom de toutes les autres associations présentes et organisatrices.
Cette journée de formation autour de la prévention des radicalisations masculinistes est le fruit d'un projet collectif multipartenarial qui a germé autour d'abord de quatre associations ici représentées. Et c'est au nom de ces quatre associations que je vais prendre la parole. Donc Zoomacom, ici représentée par Antoine, l'ANEF Loire, ici représentée par Jérôme, et plus spécifiquement la mission de prévention des radicalisations qui mènent à la violence de l'ANEF, SOS Racisme, ici représenté par Karim, et le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. En apparence, effectivement, cette journée de formation est une forme de réaction à l'événement tragique qui s'est déroulé en juin dernier à Saint-Étienne. Et en fait, l'idée a mûri depuis plusieurs années via un travail de veille constante de nos structures de terrain, mais aussi via un travail de veille constante de nos réseaux respectifs. Et ce qu'on constate, c'est qu'on assiste à la fois à une recomposition, une transformation du sexisme et de ses manifestations, et à la fois une diversification des formes de radicalisation. Et c'est autour de ce double enjeu qui nous semblait intéressant, de cette articulation un peu originale, qui nous semblait intéressant de proposer une réflexion commune, parce que il nous semble à notre connaissance que cette perspective dans cette double articulation n'a pas été appréhendée de cette manière-là. C'est notre premier parti pris et c'est ce qui fait un peu l'originalité et la spécificité de cette journée. Maintenant, l'événement de juin a malgré tout agi comme un déclencheur. Déjà au niveau des effets que ça a provoqué, vous avez comme nous assisté aussi à aux effets que ça a provoqué sur la presse locale mais aussi nationale. Et on a constaté avec beaucoup de sidération un espace médiatique qui a été rapidement saturé de discours d'opinion qui relataient, qui restituaient, qui évoquaient ce fait à partir d'opinions et avec une relégation en même temps de tout le travail de capitalisation, de production, de données scientifiques qui avaient déjà été produits sur ces phénomènes-là et une relégation de ces connaissances-là et de ces discours au deuxième plan, voire un adossement en fait, hein, comme si finalement les discours d'opinion et les discours scientifiques pouvaient être équivalents et s'opposer les uns aux autres. Donc ça c'est la première chose, la marginalisation des discours scientifiques sur le fait qui nous semblait important. Parce que le second parti pris, c'est de se dire que si on pose pas le diagnostic comme il faut, eh bien, on risque de passer à côté de causes essentielles et du coup, envisager des solutions erronées et moins efficaces. Et c'est le deuxième parti pris qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, il était essentiel pour nous de nous équiper de travaux, élaborés via des démarches rigoureuses de production de connaissances. Et c'est à ce titre-là que nous avons convié les deux conférenciers qui vous proposeront une restitution de leurs travaux et de leurs réflexions, Stéphanie Lamy et Séraphin Alava. Et on les remercie très chaleureusement d'être venus tous les deux de Toulouse et de se rencontrer, alors c'est l'ironie de la situation, autour de cette problématique sur Saint-Étienne. Progressivement, d'autres partenaires se sont associés à la démarche. Saint-Étienne Métropole, qui soutient depuis plusieurs années les démarches de formation des professionnels autour de l'égalité femmes-hommes autour du 8 mars et des semaines de l'égalité. L'Université Jean Monnet qui nous accueille. la préfecture de la Loire via la délégation aux droits des femmes, et puis des structures de terrain avec qui ont été conçus l'ensemble des ateliers de l'après-midi. Ces ateliers-là, on les a structurés autour de trois thématiques. La première, c'est la question des réseaux sociaux, qui sont malgré tout un catalyseur en matière de masculinisme. Le premier atelier abordera la question de la modération. Il sera co-animé par SOS Racisme et Respect Zone. Le deuxième atelier abordera, vous transférera des points de repère et donnera des clés pour repérer et identifier les violences en ligne. Il sera animé par Zoomacom. La deuxième question qu'on a voulu se poser, c'est comment on peut éduquer, comment on peut transformer la société dans un contexte qui produit des hiérarchies encore entre les femmes et les hommes et qui est sexiste. Ça pose deux questions. Comment on socialise les garçons dans ce contexte-là? De quel modèle on dispose? Mais aussi, dès lors qu'on amorce un changement, à quelle résistance on doit s'attendre et comment on s'y prépare? Cet atelier sera co-animé par la protection judiciaire de la jeunesse, le CIDFF et Stéphanie Lamy. Le troisième focus qu'on a voulu mettre en avant, c'est que, avant tout, il existe déjà des solutions. Il y a déjà un ensemble d'acteurs qui sont nombreux et qui contribuent en prévention primaire à mettre en place des relations de couple plus équilibrées, à soutenir aussi la parentalité. Et donc c'est pour valoriser ce qui se fait déjà et faire le lien avec cette problématique émergente qu'on a structuré les deux ateliers suivants. Le premier, autour du soutien à la parentalité, qui sera co-animé par Zoomacom et l'École des parents et des éducateurs. Et enfin, un atelier qui sera co-animé par le nouveau planning familial, SOS Violence Conjugale et l'École des parents et des éducateurs également, et qui vise à donner à voir très concrètement les techniques, les méthodes, les démarches pédagogiques, les savoir-faire, bref, qui sont mis en œuvre au cours de séances qui sont menées auprès de jeunes pour favoriser des relations de couple équilibrées. Une démarche qui s'est largement professionnalisée depuis les années 1980 et qui cristallise et qui polarise pas mal de discours un peu résistants autour des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Voilà, c'était important pour nous de donner à voir concrètement ce qu'on y fait. Donc on a dû faire des choix. On n'ira pas sur la question du repérage ni de la prise en charge. Déjà, ça impliquerait beaucoup plus de temps, mais ça impliquerait aussi d'autres acteurs, d'autres expertises. On a choisi de se recentrer sur une approche, comme vous l'avez compris, plus préventive. Déjà, la première brique à poser, c'était de se poser des repères, des points de repère communs pour comprendre les mécanismes et poser un diagnostic collectivement. Bien sûr, toutes les initiatives qui visent à pérenniser toutes les petites graines qu'on aura semées aujourd'hui sont les bienvenues. Et je cite déjà donc la présence de Radio Onden qui couvre l'événement. Donc l'ensemble des échanges et des conférences de la matinée seront rediffusées sur les ondes de Radio Onden. Et également, on vous proposera un espace collaboratif qui a été conçu par Zoomacom pour capitaliser aussi sur toutes les connaissances qu'on va produire ce matin et essayer d'amorcer une communauté de professionnels de notre territoire autour de cette question-là. On espère déjà que cette journée va pouvoir répondre à vos attentes, mais on espère surtout que ça soit une amorce pour une réflexion collective structurée sur notre territoire, qu'on pose un diagnostic commun pour nous permettre de nous renforcer, de nous enrichir sur la capacité de réponse qu'on peut apporter de manière préventive à cette problématique.
Après l'introduction de cette journée et le cycle de conférences, promenons-nous dans les différents ateliers. EVARS, éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité avec SOS Violence Conjugale 42, le nouveau planning familial et l'école des parents et des éducateurs.
Ok. Peut-être on vous propose de faire un peu de la mise en commun sur qu'est-ce qu'on peut attendre de l'éducation à la vie affective et sexuelle, de quoi on parle quand on parle de ça et qu'est-ce qui vous pourrait vous poser question ou qui pourrait être des freins dans votre structure, dans votre pratique pour aborder ces questions ou pour solliciter des interventions, mettre en place des ateliers, etc. Et du coup, on voulait le faire sous force de brainstorming. Et peut-être la première question qu'on peut se poser, c'est de quoi on parle au sens, c'est quoi qui est abordé comme thématique, comme question, comme notion quand on fait de l'éducation à la vie affective et sexuelle, à votre avis?
L'anatomie.
La socialisation masculine. Un atelier avec Stéphanie Lamy, avec le CIDFF 42 et la PJJ de la Loire.
ou alors de rendre le coût de la prise de parole sur, sur la menace qu'est la radicalisation masculiniste, rendre le coût très élevé pour celles qui prennent la parole dessus. Donc vous, si vous commencez à parler de radicalisation masculiniste, dans l'atmosphère, vous risquez d'avoir des gens qui vont vous ridiculiser, qui vont vous marginaliser, qui risquent de vous crier dessus. Enfin, il y a un coût qui est associé à ça, donc je vais pas vous dire. Peut-être un peu moins maintenant, parce que les féministes ont déblayé le chemin, mais il y a un coût qui est quand même associé. Et ensuite, il y a la division. Fragmenter les publics. Donc, il y a plusieurs mécanismes. La division, c'est entre autres de dire, en fait, les masculinismes, c'est que les jeunes. Ça permet aux hommes un peu plus âgés de se distancier, en fait, de ces discours-là. D'accord ? Mais c'est aussi la division en disant que certaines féministes, c'est OK de lutter contre. Vous avez peut-être entendu parler de personnes qui parlent de néo-féminisme. Bon, en fait, il y a peu de féministes qui se définissent néo-féministes, en fait. Néo-féminisme, c'est une catégorie qui est utilisée pour discréditer l'avance, celles qui vont un peu plus loin dans la déconstruction des discriminations ou...
Atelier soutien à la parentalité avec l'école des parents et des éducateurs et Zoomacom.
Toi, tu te marieras avec un tel et tu restes dans le même réseau que nous, dans la même
communauté.
Et ben le gamin, il a ça dans sa
tête.
C'est triste. Il a été éduqué comme ça.
Il y a une partie d'éducation.
Vraiment, c'est l'éducation qu'il faut aller cibler quelque part.
Et laquelle des éducations ?
Celle des parents.
Ah oui ? Mais aussi.
Il diminue sur le professionnel.
Après, la culture, on peut avoir une certaine culture, mais pas avoir des idées misogynes, etc. Voilà, on parle de ça.
Oui, mais on a toujours de la reproduction. Quand même, voilà. De ce qu'on a connu dans notre phase de socialisation et comment on reproduit.
C'est pour ça que je disais que c'est vrai que ce que disent les parents, comment on a été éduqué, ça nous semble normal. Donc d'office, on reproduit. Et puis,
ce que les enfants voient dans leur quotidien, ça représente leur
adolescence. C'est Zoomacom qui animait l'atelier « Comment repérer les violences en ligne ».
Et puis il y a également ce qui vient se rajouter à ça, c'est la notion d'algorithme que vous avez abordé ce matin, Monsieur Alava et Stéphanie Lamy. Les algorithmes qui viennent un peu dicter les messages que l'on reçoit. Donc potentiellement la bulle de filtre dans laquelle un adolescent qui démarre à peine sur les réseaux va vite se retrouver. Donc là, typiquement, j'ai pris un message, j'ai fait une petite sélection. En seulement 5 jours sur TikTok, un profil d'ado garçon peut passer de 13% à 56% de contenu misogyne dans son fil, sans qu'il n'ait rien demandé. Moi, ces messages-là, alors pas forcément sur la misogynie, mais j'ai déjà entendu ce message-là d'un élève de 6e. Il m'avait marqué parce qu'il était tout mignon, c'était un garçon, et il a osé dire que lui, ça le gênait de recevoir des photos et des invitations de femmes, en fait, nues, dénudées, qui l'invitaient à prendre rendez-vous avec lui. Voilà, du haut de ses... Enfin, il devait avoir 11 ans, je pense. Et je lui ai dit que c'était très courageux de sa part de prendre la parole là-dessus. Parce qu'en général, quand on est garçon, on se fait fort justement d'avoir des rapports, de connaître beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Et là, j'entendais pour la première fois un discours inverse. Donc je me suis dit, il y a effectivement les femmes, les jeunes femmes qui doivent être accompagnées, protégées, mais également les garçons donc qui sont victimes en fait de ces algorithmes, de ces fameuses bulles de filtre. Donc quand on pense à accompagner, il y a à la fois accompagner les victimes, mais accompagner aussi parfois même les victimes auxquelles on n'aurait pas pensé en premier lieu. Il y a également la question, bien sûr, de cybersexisme, qui est la première forme de discours de haine en ligne. Donc tout ça, là, enfin, c'est juste ces deux chiffres, je les sors du rapport tout récent, donc de 2026, du Haut Conseil à l'égalité. Et puis, bien sûr, on en a peut-être moins parlé ce matin, mais que ce soit les actes de violence commis par des masculinistes et puis les conséquences réelles des cyberviolences sur les femmes, entre autres, elles sont bien réelles. On les voit tous les jours quand on travaille auprès de SOS Violence Conjugale, par exemple, comme je le fais.
avec le planning familial aussi, avec des éducateurs spécialisés. Moi, ça fait 4 ans que je travaille vraiment de manière rapprochée, je dirais, avec des éducateurs spécialisés. Et j'en suis venue à dire que les éducateurs sont spécialisés sont pour moi des victimes collatérales des cyberviolences. Parce que souvent, quand un jeune ou une jeune qui est accompagnée, qui est victime de cyberviolence, elle les voit, ces cyberviolences aussi, et elle se sent en totale incapacité de faire quoi que ce soit. Et j'ai vu vraiment des éducateurs spécialisés qui font très très bien leur métier, mais qui se sentent complètement démunis face aux cyberviolences. Parce qu'il faut quand même s'y connaître un minimum en numérique, que le numérique évolue en permanence, et puis que les harceleurs savent très bien faire pour se dissimuler, se cacher derrière les écrans, avoir des pseudos, etc. Donc là, quelques notions. Un jeune sur deux trouve que les discours masculinistes disent enfin la vérité. Donc là aussi, on a des discours qui sont portés et qu'il va falloir accompagner, hein, comme M. Alava vous a invité à faire, effectivement. Le jugement des femmes, le rejet du préservatif. Donc là, on est bien dans la réalité aussi. Le sentiment d'être victime. Donc tout ça, ce sont des éléments qui nous viennent du rapport OpinionWay et SIDAction qui révèlent une montée inquiétante des idées masculinistes, en particulier chez les 16.
Restons dans le numérique avec l'intelligence artificielle et la modération en ligne, un atelier avec Respect Zone.
Une envie de progresser, on a envie du bien-être humain, ça va contre leurs intérêts, on peut faire des choses à notre niveau, et malheureusement aujourd'hui, comme on n'a pas ce monopole technologique, on ne sait se battre qu'avec des dalloz, c'est-à-dire avec des lois, donc faisons les respecter, et puis à notre petit niveau, on va voir qu'on peut faire des choses par des signalements,
puis, éducation,
l'éducation, bien sûr, c'est ce qu'on fait,
médiation,
voilà.
Modération, désescalade, et puis de trouver des voies et des moyens pour trouver des manières intelligentes d'aller interpeller les jeunes. Donc aujourd'hui en France, la moyenne d'âge de l'accès à un smartphone, c'est 8 ans et demi. C'est-à-dire que les parents équipent leur enfant avec un smartphone usagé ou neuf à partir de 8 ans et demi, avec comme argument soit que ça l'occupe, soit que ça lui permet de tracer ses allées et venues et d'avoir une forme d'assurance sur le trajet scolaire, et puis c'est une manière aussi de pouvoir avoir une forme de soit de contrôle, soit de capacité de contact avec son enfant, mais impermanent. Et puis c'est lié aussi à la demande des enfants par imitation et par esprit grégaire pour faire comme les copains et d'avoir aussi leur propre smartphone. Et donc c'est aussi pour permettre à cet enfant de rester socialisé, parce que lorsqu'on n'est pas dans les groupes WhatsApp de la classe, lorsqu'on n'est pas dans les groupes Telegram, lorsqu'on n'est pas sur les mêmes jeux vidéo, on est vite marginalisé. Et en tout cas, on a un sentiment, en tout cas, c'est ce qui va être développé, d'être exclu d'un groupe social. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a...
Nous arrivons à la fin de cette journée de formation des professionnels, décrypter le masculinisme, les clés pour agir. Pour cette conclusion, la parole est donnée à Stéphanie Lamy et Séraphin Alava, les deux conférenciers du jour.
L'objet de la commande, c'était que je fasse part de mes étonnements ou des remarques que j'ai eues. J'ai eu malheureusement, et en fait heureusement, je suis resté dans un seul groupe dont je vais pouvoir parler du groupe. Je dis heureusement parce que j'ai trouvé ça merveilleux, excellent. Il y a là, dans l'Observatoire sur la cyberviolence, vraiment quelque chose de très original. Et je vais faire part des étonnements. En partant, je m'étais dit, j'aimerais être jeune et habiter à Saint-Étienne. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'y ai vu les prémices de ce qui pourrait faire bouger un professionnalisme, des connaissances, et deux, il y a cette, alors je ne dis pas réseau, mais déjà ce début de capillarisation, de petits trucs qui se rencontrent, de reconnaissance. Tiens, t'es compétent, je suis compétent, bon, qu'on ne serait pas compétent à deux. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Pas seulement le fait que les associations aient structuré les éléments, mais qu'on voit que le langage est commun, qu'il y a des débuts de connaissances. Donc je me suis dit, ils sont en dynamique, pourvu que le dieu politique ne tombe pas sur la tête. pourvu qu'il passe à côté. À ce moment-là, on va pouvoir mettre en place des choses. Il y a des points qui ne sont pas des points d'étonnement, mais qui sont des points qui restent à structurer. Comment la richesse que l'un a devient la richesse de l'autre ? Nous, on le vit tout quotidiennement, puisqu'avec notre ingénierie, avec nos outils, on a des choses, et chaque fois qu'on rencontre, on se rend compte que tout le monde en avait besoin, mais qu'on n'a pas su le rapporter. Hein ? Ça demande une ingénierie particulière, ça demande un travail. La dissémination, c'est pas comme ça que ça se fait. Et donc, il y a de l'investissement humain, mais, j'en discutais avec un collègue, il faut avoir une taille pour pouvoir le faire. Sinon, vous passez votre temps à fabriquer, et vous n'avez pas le temps d'aller voir l'établissement là-bas pour leur dire « Tiens, j'ai fabriqué ». Donc, du coup, l'idée de réunir vos forces, me semble-t-il, est intéressante pour pouvoir dégager du temps au travail du quotidien et pour pouvoir vraiment faire de la dissémination. Alors, j'ai quand même vu les observatoires, j'ai quand même vu des outils, j'ai quand même vu les éléments que vous avez déjà mis sur les différentes ressources. Ça, c'est déjà génial. Et puis, vous mettez en place de la formation, ce qui est le premier mouvement de la manivelle. Il faut bien tourner. Dans un domaine qui est des domaines d'urgence. Et ces domaines d'urgence sont gênants parce que cette urgence nous amène à traiter des problèmes. Il y en a un élément qui m'a semblé important, c'est le temps de la prise en charge. Le temps, on a des problèmes, mais on va rencontrer des jeunes, soit qui sont masculinistes, soit qui vont le devenir, soit qui ont été victimes et qui en souffrent. Et il faut du temps pour la prise en charge humaine. Ça ne peut pas se faire en trois coups de fil, allez, trois documents, débrouillez-vous. Et ça, je pense que le travail social ne prend pas en compte assez ce temps-là et que les financeurs ne prennent pas assez le temps de co-vivre avec quelqu'un pour l'aider à avancer. On renvoie ça aux psys, on renvoie ça aux gens qui prennent en compte. Et ça, je pense que moi, j'ai senti chez vous qu'il y avait la volonté d'aller au-delà du discours et un peu de la pratique réelle. De la pratique réelle. Voilà à peu près ce que je voulais. J'ai pas été étonné de votre niveau parce que je vous connaissais déjà. Un peu, pas vous, mais ce qui se passait à Saint-Étienne. Donc ça, c'est très bien. Deux points. Il vous faut de l'effort juridique. Parce que toutes ces personnes-là, il faudra avoir de l'importance juridique. Il faut donc faire un travail vers le monde du droit pour qu'on s'arme là-dessus. Parce qu'on va aborder un combat, et dans ce combat, on va se rencontrer des gens qui vont avoir les armes. La collègue me racontait comment elle a pu être harcelée. Moi, j'ai eu qu'une attaque de masculiniste dans une conférence, donc c'est pas bien grave. Mais vous qui êtes sur le terrain, vous allez être au combat. Et donc, il faut s'armer et rajouter quelque chose à votre réseau qui soit l'aide juridique et l'aide. L'expérience que j'ai sur les phénomènes de radicalisation montre qu'à un moment donné, il faudrait bien parler avec les forces de sécurité, la police, et donc il faut pouvoir, dès le début, faire rentrer ces personnes-là, parce qu'elles peuvent être intéressées, parce qu'elles n'ont pas besoin de découvrir dès le début les problèmes, elles peuvent être intéressées par pouvoir faire ça. Voilà, j'arrête les éléments. Tout le combat va se passer sur le net, tout le combat va se passer sur le droit à l'information et la partie de l'information. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire venir ces ex-journalistes pour leur rappeler qu'ils avaient un beau métier et que peut-être qu'ils pourraient nous aider aussi pour faire qu'enfin on puisse avoir, si possible, une éthique de l'information ? Excusez-moi d'être dur.
Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui ? Alors, tout premièrement, je voulais vous remercier de l'accueil. C'est la première fois que j'interviens dans une conférence où derrière on réfléchit à des solutions directement. Ça fait maintenant plus d'un an que le livre est sorti. Je suis intervenue dans beaucoup de conférences. J'ai fait mon petit tableau. J'ai expliqué qui sont les NOFAP. J'ai parlé d'abstinence de masturbation. Tout le monde a toujours rigolé dans la salle. C'est la première fois, en fait, où la conférence elle est suivie d'ateliers. Et je pense que ça montre un changement de cap, un changement d'orientation. Et je voudrais vraiment remercier le CIDF pour l'invitation. Je sais que vous faites déjà depuis 2 ans un travail là-dessus et ça sort pas de nulle part. Donc c'est ce que je voulais aussi dire. C'est un peu l'aboutissement aussi de tout le travail de terrain qui a été fait par les associatifs ici à Saint-Étienne. Pour moi, ça fait énormément de sens que cette conférence et les ateliers ont lieu à Saint-Étienne. En tant que féministe qui suit l'évolution de ces milieux-là depuis 2013 maintenant, ça me fait plaisir, vraiment, de voir des gens aussi passionnés, aussi proches du terrain, incarner en fait cette lutte contre les masculinismes. Et je me sens beaucoup moins seule. Vraiment. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, les échanges qu'on a eus dans les ateliers. Parce que moi, ça me permet aussi de voir ce que j'écris de manière très théorique, même voir sur relations internationales, transformation de normes, voir comment ça peut se traduire réellement sur le terrain avec les outils que vous avez déjà développés dans votre toolbox d'expertise que vous avez. Et en fait, il n'y a pas grand-chose pour transposer, adapter, transposer. C'est pas un gros pas. Encore la semaine dernière, on me demandait qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai dit, en fait, la bonne nouvelle, c'est que rien n'a été fait. Donc, tout reste à faire et tout reste à imaginer, en fait, comme solution. Et vous, là, êtes en train de le faire. Donc, je vous remercie énormément.
C'était votre programme Les Ondes de l'Égalité, proposé par Radio Ondaine en partenariat avec les Semaines de l'Égalité de Saint-Étienne Métropole, à retrouver en rediffusion et sur notre site internet www.radio-ondaine.com.